Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, première partie, livre neuvième. Je vais trouver ma mère à Saint-Malo. Progrès de la Révolution. Mon mariage. 2. Paris. Anciennes et nouvelles connaissances. L'abbé Barthélemy. Saint-Ange. Théâtre. 3. Changement de physionomie de Paris. Club des Cordeliers. Marat. 4. Danton. Camille Desmoulins. Fabre d'Églantine. 5. Opinion de Monsieur de Malesherbes sur l'émigration. 6. Je joue et je perds. Aventure du fiacre. Madame Roland. Barrère à l'Ermitage. Seconde fédération du 14 juillet. Préparatif d'émigration. 7. J'émigre avec mon frère. Aventure de Saint-Louis. Nous passons la frontière. 8. Bruxelles. Dîner chez le baron de Breteuil. Rivarol. Départ pour l'armée des princes. Route. Rencontre de l'armée prussienne. J'arrive à Trèves. 9. Armée des princes. Amphithéâtre romain. Attala. Les chemises de Henri IV. 10. Vie de soldat. Dernière représentation de l'ancienne France militaire. 11. Commencement du siège de Thionville. Le chevalier de la baronnie. 12. Continuation du siège. Contraste. Saint dans les bois. Bataille de Bouvines. Patrouille. Rencontre imprévue. Effet d'un boulet et d'une bombe. 13. Marché du camp. 14. Nuit au faisceau d'armes. Chien hollandais. Souvenir des martyrs. Quelle était ma compagnie aux avant-postes? Encore Eudore. Ulysse. 15. Passage de la Moselle. Combat. Liba, sourde et muette. Attaque sur Thionville. 16. Levée du siège. Entrée à Verdun. Maladie prussienne. Retraite. Petite Vérole. 1. Londres, d'avril à septembre 1822, revue en décembre 1846. Je vais trouver ma mère à Saint-Malo. Progrès de la Révolution. Mon mariage. J'écrivis à mon frère, à Paris, le détail de ma traversée, lui expliquant les motifs de mon retour et le priant de me prêter la somme nécessaire pour payer mon passage. Mon frère me répondit qu'il venait d'envoyer ma lettre à ma mère. Madame de Chateaubriand ne me fit pas attendre. Elle me mit à même de me libérer et de quitter le Havre. Elle me mandait que Lucile était auprès d'elle avec mon oncle de Bédée et sa famille. Ces renseignements me décidèrent à me rendre à Saint-Malo où je pourrais consulter mon oncle sur la question de mon émigration prochaine. Les révolutions, comme les fleuves, grossissent dans leur cours. Je trouvais celle que j'avais laissée en France énormément élargie et débordant ses rivages. Je l'avais quittée avec Mirabeau sous la Constituante, je la retrouvais avec Danton sous la Législative. Le traité de Pilnitz du 27 août 1791 avait été connu à Paris. Le 14 décembre 1791, lorsque j'étais au milieu des tempêtes, le roi annonça qu'il avait écrit aux princes du corps germanique, notamment à l'électeur de Trèves, sur les armements de l'Allemagne. Les frères de Louis XVI, le prince de Condé, M. de Calonne, le vicomte de Mirabeau et M. de Lacueil, furent presque aussitôt déclarés traîtres. Dès le 9 de novembre, un précédent décret avait frappé les autres émigrés. C'était dans ces rangs déjà proscrits que j'accourais me placer. D'autres auraient peut-être reculé, mais la menace du plus fort me fait toujours passer du côté du plus faible. L'orgueil de la victoire m'est insupportable. En me rendant du Havre à Saint-Malo, j'eus lieu de remarquer les divisions et les malheurs de la France. Les châteaux brûlés ou abandonnés, les propriétaires à qui l'on avait envoyé des quenouilles étaient partis, les femmes vivaient réfugiées dans les villes. Les hameaux et les bourgades gémissaient sous la tyrannie des clubs affiliés au club central des Cordeliers, depuis réunis aux Jacobins. L'antagoniste de celui-ci, la société monarchique ou des feuillants, n'existait plus. L'ignoble dénomination de sans-culottes était devenue populaire. On n'appelait le roi que « Monsieur Veto » ou « Mons Capet ». Je fus reçu tendrement de ma mère et de ma famille, qui cependant déploraient l'inopportunité de mon retour. Mon oncle, le comte de Bédée, se disposait à passer à Jersey, avec sa femme, son fils et ses filles. Il s'agissait de me trouver de l'argent pour rejoindre les princes. Mon voyage d'Amérique avait fait brèche à ma fortune. Mes propriétés étaient presque anéanties dans mon partage de cadet par la suppression des droits féodaux. Les bénéfices simples qui me devaient échoir en vertu de mon affiliation à l'ordre de Malte étaient tombés avec les autres biens du clergé aux mains de la nation. Ce concours de circonstances décida de l'acte le plus grave de ma vie. On me maria afin de me procurer le moyen de m'aller faire tuer au soutien d'une cause que je n'aimais pas. Vivait, retiré à Saint-Malo, monsieur de Lavigne, chevalier de Saint-Louis, ancien commandant de l'Orient. Le comte d'Artois avait logé chez lui, dans cette dernière ville, lorsqu'il visita la Bretagne. Charmé de son hôte, le prince lui promit de lui accorder tout ce qu'il demanderait dans la suite. Monsieur de Lavigne eut deux fils. L'un d'eux épousa mademoiselle de la Placellière. Deux filles, nées de ce mariage, restèrent en bas âge orphelines de père et de mère. L'aînée se maria au comte du Plessis par Sceaux, capitaine de vaisseau, fils et petit-fils d'amiraux, aujourd'hui contre-amiral lui-même, cordon rouge et commandant des élèves de la marine à Brest. La cadette, demeurée chez son grand-père, avait 17 ans lorsque, à mon retour d'Amérique, j'arrivai à Saint-Malo. Elle était blanche, délicate, mince et fort jolie. Elle laissait pendre, comme un enfant, de beaux cheveux blonds naturellement bouclés. On estimait sa fortune de 500 à 600 000 francs. Mes sœurs se mirent en tête de me faire épouser mademoiselle de Lavigne, qui s'était fort attachée à Lucile. L'affaire fut conduite à mon insu. À peine avais-je aperçu 3 ou 4 fois mademoiselle de Lavigne. Je la reconnaissais de loin sur le sillon, à sa pelisse rose, sa robe blanche et sa chevelure blonde enflée du vent, lorsque sur la grève je me livrais aux caresses de ma vieille maîtresse, la mère. Je ne me sentais aucune qualité du mari. Toutes mes illusions étaient vivantes, rien n'était épuisé en moi. L'énergie même de mon existence avait doublé par mes courses. J'étais tourmentée de la muse. Lucile aimait mademoiselle de Lavigne et voyait dans ce mariage l'indépendance de ma fortune. « Faites donc, dis-je. Chez moi, l'homme public est inébranlable. L'homme privé est à la merci de quiconque se veut emparer de lui, et pour éviter une tracasserie d'une heure, je me rendrais esclave pendant un siècle. » Le consentement de l'aïeul, de l'oncle paternel et des principaux parents fut facilement obtenu. Restait à conquérir un oncle maternel, M. de Vauvert, grand démocrate. Or, il s'opposa au mariage de sa nièce avec un aristocrate comme moi qui ne l'était pas du tout. On crut pouvoir passer outre, mais ma pieuse mère exigea que le mariage religieux fut fait par un prêtre non assermenté, ce qui ne pouvait avoir lieu qu'en secret. Monsieur de Vauvert le sut et lâcha contre nous la magistrature sous prétexte de rapt, de violation de la loi et arguant de la prétendue enfance dans laquelle le grand-père monsieur de Lavigne était tombé. Mademoiselle de Lavigne, devenue madame de Chateaubriand, sans que j'eusse eu de communication avec elle, fut enlevée au nom de la justice et mise à Saint-Malo, au couvent de la Victoire, en attendant l'arrêt des tribunaux. Il n'y avait ni rapt, ni violation de la loi, ni aventure, ni amour dans tout cela. Ce mariage n'avait que le mauvais côté du roman, la vérité. La cause fut plaidée et le tribunal jugea l'union valide au civil. Les parents des deux familles étant d'accord, M. de Vauvert se désista de la poursuite. Le curé constitutionnel, largement payé, ne réclama plus contre la première bénédiction nuptiale, et Madame de Chateaubriand sortit du couvent où Lucile s'était enfermée avec elle. C'était une nouvelle connaissance que j'avais à faire, et elle m'apporta tout ce que je pouvais désirer. Je ne sais s'il a jamais existé une intelligence plus fine que celle de ma femme. Elle devine la pensée et la parole à naître sur le front ou sur les lèvres de la personne avec qui elle cause. La tromper en rien est impossible. D'un esprit original et cultivé, écrivant de la manière la plus piquante, racontant à merveille, Madame de Chateaubriand m'admire sans avoir jamais lu deux lignes de mes ouvrages. Elle craindrait d'y rencontrer des idées qui ne sont pas les siennes, ou de découvrir qu'on n'a pas assez d'enthousiasme pour ce que je vaux. Quoique juge passionnée, elle est instruite et bon juge. Les inconvénients de Madame de Chateaubriand, si elle en a, découlent de la surabondance de ses qualités. Mes inconvénients très réels résultent de la stérilité des miennes. Il est aisé d'avoir de la résignation, de la patience, de l'obligeance générale, de la sérénité d'humeur, lorsqu'on ne prend à rien, qu'on s'ennuie de tout, qu'on répond au malheur comme au bonheur, par un désespéré et désespérant, qu'est-ce que cela fait ? Madame de Chateaubriand est meilleure que moi, bien que d'un commerce moins facile. Ai-je été irréprochable envers elle ? Ai-je reporté à ma compagne tous les sentiments qu'elle méritait et qui lui devaient appartenir ? S'en est-elle jamais plainte ? Quel bonheur a-t-elle goûté pour salaire d'une affection qui ne s'est jamais démentie ? Elle a subi mes adversités. Elle a été plongée dans les cachots de la terreur, les persécutions de l'Empire, les disgrâces de la Restauration, et n'a point trouvé dans les joies maternelles le contrepoids de ses chagrins. Privée d'enfants qu'elle aurait eu peut-être dans une autre union et qu'elle eût aimé avec folie, n'ayant point ses honneurs et ses tendresses de la mère de famille qui console une femme de ses belles années, elle s'est avancée, stérile et solitaire, vers la vieillesse. Souvent séparée de moi, adverse aux lettres, l'orgueil de porter mon nom ne lui est point un dédommagement. Timide et tremblante pour moi seule, ses inquiétudes sans cesse renaissantes lui ôtent le sommeil et le temps de guérir ses maux. Je suis sa permanente infirmité et la cause de ses rechutes. Pourrais-je comparer quelques impatiences qu'elle m'a données aux soucis que je lui ai causés ? Pourrais-je opposer mes qualités telles quelles à ses vertus qui nourrissent le pauvre, qui ont élevé l'infirmerie de Marie-Thérèse en dépit de tous les obstacles ? Qu'est-ce que mes travaux auprès des œuvres de cette chrétienne ? Quand l'un et l'autre nous paraîtront devant Dieu, c'est moi qui serai condamnée. Somme toute, lorsque je considère l'ensemble et l'imperfection de ma nature, est-il certain que le mariage ait gâté ma destinée ? J'aurais sans doute eu plus de loisirs et de repos, j'aurais été mieux accueillie de certaines sociétés et de certaines grandeurs de la terre, mais en politique, si Madame de Chateaubriand m'a contrariée, elle ne m'a jamais arrêtée, parce que là, comme en fait d'honneur, je ne juge que d'après mon sentiment. Aurais-je produit un plus grand nombre d'ouvrages si j'étais resté indépendant, et ces ouvrages eussent-ils été meilleurs ? N'y a-t-il pas eu des circonstances, comme on le verra, où, me mariant hors de France, j'aurais cessé d'écrire et renoncé à ma patrie ? Si je ne me fusse pas mariée, ma faiblesse ne m'aurait-elle pas livrée en proie à quelque indigne créature ? N'aurais-je pas gaspillé et sali mes heures comme Lord Byron ? Aujourd'hui que je m'enfonce dans les années, toutes mes folies seraient passées. Il ne m'en resterait que le vide et les regrets. Vieux garçon sans estime, ou trompé ou détrompé, vieil oiseau répétant à qui ne l'écouterait pas ma chanson usée. La pleine licence de mes désirs n'aurait pas ajouté une corde de plus à ma lyre, un son plus ému à ma voix. La contrainte de mes sentiments, le mystère de mes pensées, ont peut-être augmenté l'énergie de mes accents, animé mes ouvrages d'une fièvre interne, d'une flamme cachée qui se fût dissipée à l'air libre de l'amour. Retenue par un lien indissoluble, j'ai acheté d'abord au prix d'un peu d'amertume les douceurs que je goûte aujourd'hui. Je n'ai conservé des maux de mon existence que la partie inguérissable. Je dois donc une tendre et éternelle reconnaissance à ma femme, dont l'attachement a été aussi touchant que profond et sincère. Elle a rendu ma vie plus grave, plus noble, plus honorable, en m'inspirant toujours le respect, sinon toujours la force des devoirs. Chapitre 2. Londres, d'avril à septembre 1822, Paris. Anciennes et nouvelles connaissances, l'abbé Barthélemy, Saint-Ange, théâtre. Je me mariai à la fin de mars 1792 et le 20 avril, l'Assemblée législative déclara la guerre à François II qui venait de succéder à son père Léopold. Le 10 du même mois, on avait béatifié à Rome Benoît Labre. Voilà deux mondes. La guerre précipita le reste de la noblesse hors de France. D'un côté, les persécutions redoublèrent. De l'autre, il ne fut plus permis aux royalistes de rester à leur foyer sans être réputés poltrons. Il fallut m'acheminer vers le camp que j'étais venu chercher de si loin. Mon oncle, de Bédé, et sa famille s'embarquèrent pour Jersey, et moi je partis pour Paris avec ma femme et mes sœurs, Lucille et Julie. Nous avions fait arrêter un appartement, faubourg Saint-Germain, cul-de-sac Férou, petit hôtel de Villette. Je me hâtais de chercher ma première société. Je revis les gens de lettres avec lesquels j'avais eu quelques relations. Dans les nouveaux visages, j'aperçus ceux du savant abbé Barthélemy et du poète Saint-Ange. L'abbé a trop dessiné les gynécées d'Athènes d'après les salons de Chanteloup. Le traducteur d'Ovide n'était pas un homme sans talent. Le talent est un don, une chose isolée. Il se peut rencontrer avec les autres facultés mentales. Il peut en être séparé. Saint-Ange en fournissait la preuve. Il se tenait à quatre pour n'être pas bête, mais il ne pouvait s'en empêcher. Un homme dont j'admirais et dont j'admire toujours le pinceau, Bernardin de Saint-Pierre, manquait d'esprit, et malheureusement son caractère était au niveau de son esprit. Que de tableaux sont gâtés dans les études de la nature par la borne de l'intelligence et par le défaut d'élévation d'âme de l'écrivain. Rulhière était mort subitement en 1791, avant mon départ pour l'Amérique. J'ai vu depuis sa petite maison à Saint-Denis avec la fontaine et la jolie statue de l'amour, au pied de laquelle on lit ses vers. D'Egmont, avec l'amour, visita cette rive. Une image de sa beauté se peignit un moment sur l'onde fugitive. D'Egmont a disparu. L'amour seul est resté. Lorsque je quittais la France, les théâtres de Paris retentissaient encore du réveil d'Épiménide et de ce couplet. J'aime la vertu guerrière de nos braves défenseurs, mais d'un peuple sanguinaire, je déteste les fureurs. À l'Europe redoutable, soyons libres à jamais, mais soyons toujours aimables et gardons l'esprit français. À mon retour, il n'était plus question du réveil d'Épiménide, et si le couplet eût été chanté, on aurait fait un mauvais parti à l'auteur. Charles IX avait prévalu. La vogue de cette pièce tenait principalement aux circonstances. Le Toscain, un peuple armé de poignards, la haine des rois et des prêtres, offrait une répétition à huis clos de la tragédie qui se jouait publiquement. Talma, débutant, continuait ses succès. Tandis que la tragédie rougissait les rues, la bergerie florissait au théâtre. Il n'était question que d'innocents pasteurs et de virginales pastourelles. Champs, ruisseaux, prairies, moutons, colombes, âge d'or sous le chaume, revivaient au soupir du pipeau devant les roucoulants tircis et les naïves tricoteuses qui sortaient du spectacle de la guillotine. Si Samson en avait eu le temps, il aurait joué le rôle de Colin et Mademoiselle Théroigne de Méricourt, celui de Babet. Les conventionnels se piquaient d'être les plus bénins des hommes. Bon père, bon fils, bon mari, ils menaient promener les petits-enfants. Ils leur servaient de nourrice. Ils pleuraient de tendresse à leur simple jeu. Ils prenaient doucement dans leurs bras ces petits agneaux afin de leur montrer le dada des charrettes qui conduisaient les victimes au supplice. Ils chantaient la nature, la paix, la pitié, la bienfaisance, la candeur, les vertus domestiques. Ces béats de philanthropie faisaient couper le cou à leurs voisins avec une extrême sensibilité pour le plus grand bonheur de l'espèce humaine. Chapitre 3. Londres, d'avril à septembre 1822, revue en décembre 1846. Changement de physionomie de Paris. Club des Cordeliers, Marat. Paris n'avait plus, en 1792, la physionomie de 1789 et de 1790. Ce n'était plus la révolution naissante, c'était un peuple, marchand, ivre à ses destins, au travers des abîmes, par des voies égarées. L'apparence du peuple n'était plus tumultueuse, curieuse, empressée. Elle était menaçante. On ne rencontrait dans les rues que des figures effrayées ou farouches, des gens qui se glissaient le long des maisons afin de n'être pas aperçus, ou qui rôdaient cherchant leur proie. Des regards peureux et baissés se détournaient de vous, ou d'âpres regards se fixaient sur les vôtres pour vous deviner et vous percer. La variété des costumes avait cessé. Le vieux monde s'effaçait. On avait endossé la casaque uniforme du monde nouveau, casaque qui n'était alors que le dernier vêtement des condamnés à venir. Les licences sociales manifestées au rajeunissement de la France, les libertés de 1789, ces libertés fantasques et déréglées d'un ordre de choses qui se détruit et qui n'est pas encore l'anarchie, se nivelaient déjà sous le sceptre populaire. On sentait l'approche d'une jeune tyrannie, plébéienne, féconde, il est vrai, et remplie d'espérance, mais aussi bien autrement formidable que le despotisme caduque de l'ancienne royauté. Car le peuple souverain étant partout, quand il devient tyran, le tyran est partout. C'est la présence universelle d'un universel Tibère. Dans la population parisienne se mêlait une population étrangère de coupe jarret du midi. L'avant-garde des Marseillais que Danton attirait pour la journée du 10 août et les massacres de septembre se faisait connaître à ses haillons, à son teint bruni, à son air de lâcheté et de crime, mais de crime d'un autre soleil, in vultu vitium, au visage le vice. À l'Assemblée législative, je ne reconnaissais personne. Mirabeau et les premières idoles de nos troubles, ou n'étaient plus, ou avaient perdu leurs autels. Pour renouer le fil historique brisé par ma course en Amérique, il faut reprendre les choses d'un peu plus haut. Vue rétrospective. La fuite du roi du 21 juin 1791 fit faire à la Révolution un pas immense. Ramené à Paris le 25 du même mois, il avait été détrôné une première fois, puisque l'Assemblée nationale déclara que les décrets auraient force de loi, sans qu'il fût besoin de la sanction ou de l'acceptation royale. Une haute cour de justice, devançant le tribunal révolutionnaire, était établie à Orléans. Dès cette époque, Madame Roland demandait la tête de la reine en attendant que la Révolution lui demandât la sienne. L'attroupement du Champ de Mars avait eu lieu contre le décret qui suspendait le roi de ses fonctions, au lieu de le mettre en jugement. L'acceptation de la Constitution, le 14 septembre, ne calma rien. Il s'était agi de déclarer la déchéance de Louis XVI. Si elle eût eu lieu, le crime du 21 janvier n'aurait pas été commis. La position du peuple français changeait par rapport à la monarchie et vis-à-vis de la postérité. Les constituants qui s'opposèrent à la déchéance crurent sauver la couronne, et ils la perdirent. Ceux qui croyaient la perdre en demandant la déchéance l'auraient sauvée. Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. Le 30 du même mois de septembre 1791, l'Assemblée constituante tint sa dernière séance. L'imprudent décret du 17 mai précédent, qui défendait la réélection des membres sortants, engendra la Convention. Rien de plus dangereux, de plus insuffisant, de plus inapplicable aux affaires générales que les résolutions particulières à des individus ou à des corps, alors même qu'elles sont honorables. Le décret du 29 septembre pour le règlement des sociétés populaires ne servit qu'à les rendre plus violentes. Ce fut le dernier acte de l'Assemblée constituante. Elle se sépara le lendemain et laissa à la France une révolution. Assemblée législative, club. L'Assemblée législative, installée le 1er octobre 1791, roula dans le tourbillon qui allait balayer les vivants et les morts. Des troubles ensanglantèrent les départements. À Caen, on se rassasia de massacres et l'on mangea le cœur de Monsieur de Belzunce. Le roi apposa son veto au décret contre les émigrés et à celui qui privait de tout traitement les ecclésiastiques non assermentés. Ces actes légaux augmentèrent l'agitation. Pétion était devenu maire de Paris. Les députés décrétèrent d'accusation le 1er janvier 1792 les princes émigrés. Le 2, ils fixèrent à ce 1er janvier le commencement de l'an 4 de la liberté. Vers le 13 février, les bonnets rouges se montrèrent dans les rues de Paris et la municipalité fit fabriquer des piques. Le manifeste des émigrés parut le 1er mars. L'Autriche armait. Paris était divisé en sections, plus ou moins hostiles les unes aux autres. Le 20 mars 1792, l'Assemblée législative adopta la mécanique sépulcrale, sans laquelle les jugements de la terreur n'auraient pu s'exécuter. On l'essaya d'abord sur des morts, afin qu'elle apprît d'eux son œuvre. On peut parler de cet instrument comme d'un bourreau, puisque des personnes, touchées de ses bons services, lui faisaient présent de sommes d'argent pour son entretien. L'invention de la machine à meurtre, au moment même où elle était nécessaire au crime, est une preuve mémorable de cette intelligence des faits coordonnés les uns aux autres, ou plutôt une preuve de l'action cachée de la Providence quand elle veut changer la face des empires. Le ministre Roland, à l'instigation des Girondins, avait été appelé au conseil du roi. Le 20 avril, la guerre fut déclarée au roi de Hongrie et de Bohême. Marat publia l'ami du peuple malgré le décret dont lui, Marat, était frappé. Le régiment royal allemand et le régiment de Bercini désertèrent. Isnard parlait de la perfidie de la cour. Gensonné et Brissot dénonçaient le comité autrichien. Une insurrection éclata à propos de la garde du roi, qui fut licenciée. Le 28 mai, l'Assemblée se forma en séance permanente. Le 20 juin, le château des Tuileries fut forcé par les masses des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau. Le prétexte était le refus de Louis XVI de sanctionner la proscription des prêtres. Le roi courut risque de la vie. La patrie était décrétée en danger. On brûlait en effigie Monsieur de Lafayette. Les fédérés de la seconde fédération arrivaient. Les Marseillais, attirés par Danton, étaient en marche. Ils entrèrent dans Paris le 30 juillet et furent logés par Pétion aux Cordeliers. Les Cordeliers. Auprès de la tribune nationale s'étaient élevées deux tribunes concurrentes, celle des Jacobins et celle des Cordeliers, la plus formidable alors parce qu'elle donna des membres à la fameuse Commune de Paris et qu'elle lui fournissait des moyens d'action. Si la formation de la Commune n'eût pas eu lieu, Paris, faute d'un point de concentration, se serait divisé, et les différentes mairies fussent devenues des pouvoirs rivaux. Le club des Cordeliers était établi dans ce monastère dont une amende en réparation d'un meurtre avait servi à bâtir l'église sous Saint-Louis en 1259. Elle devint, en 1590, le repère des plus fameux ligueurs. Il y a des lieux qui semblent être le laboratoire des factions. Avis fut donné, dit l'Estoile, 12 juillet 1593, au duc de Mayenne de 200 cordeliers arrivés à Paris, se fournissant d'armes et s'entendant avec les 16, lesquels, dans les cordeliers de Paris, tenaient tous les jours conseil. Ce jour, les 16, assemblés aux cordeliers, se déchargèrent de leurs armes. Les ligueurs fanatiques avaient donc cédé à nos révolutionnaires philosophes le monastère des Cordeliers comme une morgue. Les tableaux, les images sculptées ou peintes, les voiles, les rideaux du couvent avaient été arrachés. La basilique écorchée ne présentait plus aux yeux que ses ossements et ses arêtes. Au chevet de l'église, où le vent et la pluie entraient par les rosaces sans vitraux, des établis de menuisiers servaient de bureau au président quand la séance se tenait dans l'église. Sur ces établis étaient déposés des bonnets rouges, dont chaque orateur se coiffait avant de monter à la tribune. Cette tribune consistait en 4 poutrelles arc-boutées et traversées d'une planche dans leur X, comme un échafaud. Derrière le président, avec une statue de la liberté, on voyait de prétendus instruments de l'ancienne justice, instruments suppléés par un seul, la machine à sang, comme les mécaniques compliquées sont remplacées par le bélier hydraulique. Le club des Jacobins, épurée, emprunta quelques-unes de ses dispositions des cordeliers. Orateur. Les orateurs, unis pour détruire, ne s'entendaient ni sur les chefs à choisir, ni sur les moyens à employer. Ils se traitaient de gueux, de gitons, de filous, de voleurs, de massacreurs, à la cacophonie des sifflets et des hurlements de leurs différents groupes de diables. Les métaphores étaient prises du matériel des meurtres, empruntées des objets les plus sales, de tous les genres de voirie et de fumier, ou tirées des lieux consacrés aux prostitutions des hommes et des femmes. Les gestes rendaient les images sensibles. Tout était appelé par son nom, avec le cynisme des chiens, dans une pompe obscène et impie de jurements et de blasphèmes. Détruire et produire, mort et génération, on ne démêlait que cela à travers l'argot sauvage dont les oreilles étaient assourdies. Les harangueurs, à la voix grêle ou tonnante, avaient d'autres interrupteurs que leurs opposants. Les petites chouettes noires du cloître sans moine et du clocher sans cloche s'éjouissaient aux fenêtres brisées en espoir du butin. Elles interrompaient les discours. On les rappelait d'abord à l'ordre par le tintamarre de l'impuissante sonnette. Mais, ne cessant point leurs criaillements, on leur tirait des coups de fusil pour leur faire faire silence. Elles tombaient palpitantes, blessées et fatidiques au milieu du pandémonium. Des charpentes abattues, des bancs boiteux, des stalles démantibulées, des tronçons de seins roulés et poussés contre les murs, servaient de gradins aux spectateurs crottés, poudreux, saouls, suants, en carmagnole percée, la pique sur l'épaule ou les bras nus croisés. Les plus difformes de la bande obtenaient de préférence la parole. Les infirmités de l'âme et du corps ont joué un rôle dans nos troubles. L'amour-propre, en souffrance, a fait de grands révolutionnaires. Marat et ses amis. D'après ses préséances de hideur, passaient successivement, mêlées aux fantômes des seize, une série de têtes de gorgones. L'ancien médecin des gardes du corps du comte d'Artois, l'embryon suisse Marat, les pieds nus dans des sabots ou des souliers ferrés, pérorait le premier en vertu de ses incontestables droits. Nanti de l'office de fou à la cour du peuple, il s'écriait, avec une physionomie plate et ce demi-sourire d'une banalité de politesse, que l'ancienne éducation mettait sur toutes les faces. « Peuple, il te faut couper 270 000 têtes !» À ce Caligula de Carrefour succédait le cordonnier athée, Chaumette. Celui-ci était suivi du procureur général de la Lanterne, Camille Desmoulins, Cicéron Bègue, conseiller public de meurtre, épuisé de débauche, solitaire, léger républicain à calembours et à bons mots, diseur de gaudrioles de cimetière, lequel déclara qu'au massacre de septembre, tout s'était passé avec ordre. Il consentait à devenir spartiate, pourvu qu'on laissât la façon du brouet noir au restaurateur Méo. Fouché, accouru de Juilly et de Nantes, étudiait le désastre sous ses docteurs. Dans le cercle des bêtes féroces, attentives au bas de la chair, il avait l'air d'une hyène habillée. Il halénait les futures effluves du sang. Il humait déjà l'encens des processions à âne et à bourreau, en attendant le jour où, chassé du club des Jacobins comme voleur, athée, assassin, il serait choisi pour ministre. Quand Marat était descendu de sa planche, ce triboulet populaire devenait le jouet de ses maîtres. Il lui donnait des nasardes, lui marchait sur les pieds, le bousculait avec des huées, ce qui ne l'empêcha pas de devenir le chef de la multitude, de monter à l'horloge de l'hôtel de ville, d'y sonner le tocsin d'un massacre général et de triompher au tribunal révolutionnaire. Marat, comme le péché de Milton, fut violé par la mort. Chénier fit son apothéose. David le peignit dans le bain rougi. On le compara au divin auteur de l'Évangile. On lui dédia cette prière. Cœur de Jésus, cœur de Marat, ô Sacré-Cœur de Jésus, ô Sacré-Cœur de Marat. Ce cœur de Marat eut pour ciboire une pyxide précieuse du garde-meuble. On visitait dans un cénotaphe de gazon élevé sur la place du Carrousel le buste, la baignoire, la lampe et l'écritoire de la divinité. Puis le vent tourna. L'immondice, versé de l'urne d'agate dans un autre vase, fut vidé à l'égout. Chapitre 4. Londres d'avril à septembre 1822, Danton, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine. Les scènes des cordeliers, dont je fus 3 ou 4 fois le témoin, étaient dominées et présidées par Danton, un à taille de go, à nez Camus, à narines au vent, à méplats couturés, à face de gendarme mélangé de procureur lubrique et cruel. Dans la coque de son église, comme dans la carcasse des siècles, Danton, avec ses 3 furies mâles, Camille Desmoulins, Marat, Fabre d'Églantine, organisa les assassinats de septembre. Billot de Varennes proposa de mettre le feu aux prisons et de brûler tout ce qui était dedans. Un autre conventionnel opina pour qu'on noyât tous les détenus. Marat se déclara pour un massacre général. On implorait Danton pour les victimes. « Je me f... des prisonniers, » répondit-il. Auteur de la circulaire de la commune, il invita les hommes libres à répéter dans les départements l'énormité perpétrée au Carme et à l'abbaye. Prenons garde à l'histoire. Sixte Quint égala pour le salut des hommes le dévouement de Jacques Clément au mystère de l'incarnation, comme on compara Marat au sauveur du monde. Charles IX écrivit au gouverneur des provinces d'imiter les massacres de la Saint-Barthélemy, comme Danton manda aux patriotes de copier les massacres de septembre. Les Jacobins étaient des plagiaires, ils le furent encore en immolant Louis XVI, à l'instar de Charles Ier. Comme des crimes se sont trouvés mêlés à un grand mouvement social, on sait très mal à propos figurer que ces crimes avaient produit les grandeurs de la Révolution, dont ils n'étaient que les affreux pastiches. D'une belle nature souffrante, des esprits passionnés ou systématiques n'ont admiré que la convulsion. Danton, plus franc que les Anglais, disait « Nous ne jugerons pas le roi, nous le tuerons ». Il disait aussi « Ces prêtres, ces nobles, ne sont point coupables, mais il faut qu'ils meurent, parce qu'ils sont hors de place, entravent le mouvement des choses et gênent l'avenir ». Ces paroles, sous un semblant d'horrible profondeur, n'ont aucune étendue de génie, car elles supposent que l'innocence n'est rien et que l'ordre moral peut être retranché de l'ordre politique sans le faire périr, ce qui est faux. Danton n'avait pas la conviction des principes qu'il soutenait. Il ne s'était affublé du manteau révolutionnaire que pour arriver à la fortune. « Venez brailler avec nous, » conseillait-il à un jeune homme. Quand vous vous serez enrichi, vous ferez ce que vous voudrez. » Il confessa que s'il ne s'était pas livré à la cour, c'est qu'elle n'avait pas voulu l'acheter assez cher. Effronterie d'une intelligence qui se connaît et d'une corruption qui s'avoue à gueule bée. Inférieur même en laideur à Mirabeau, dont il avait été l'agent, Danton fut supérieur à Robespierre sans avoir, ainsi que lui, donné son nom à ses crimes. Il conservait le sens religieux. « Nous n'avons pas, disait-il, détruit la superstition pour établir l'athéisme. » Ces passions auraient pu être bonnes, par cela seul qu'elles étaient des passions. On doit faire la part du caractère dans les actions des hommes. Les coupables à imagination, comme Danton, semblent, en raison même de l'exagération de leurs dits et déportements, plus pervers que les coupables de sang-froid, et dans le fait, ils le sont moins. Cette remarque s'applique encore au peuple. Pris collectivement, le peuple est un poète, auteur et acteur ardent de la pièce qu'il joue ou qu'on lui fait jouer. Ses excès ne sont pas tant l'instinct d'une cruauté native que le délire d'une foule enivrée de spectacles, surtout quand ils sont tragiques. Chose si vraie que, dans les horreurs populaires, il y a toujours quelque chose de superflu donné au tableau et à l'émotion. Danton fut attrapé au traquenard qu'il avait tendu. Il ne lui servit de rien de lancer des boulettes de pain au nez de ses juges, de répondre avec courage et noblesse, de faire hésiter le tribunal, de mettre en péril et en frayeur la convention, de raisonner logiquement sur des forfaits par qui la puissance même de ses ennemis avait été créée, de s'écrier, saisi d'un stérile repentir, « C'est moi qui ai fait instituer ce tribunal infâme, j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. » Phrase qui plus d'une fois a été pillée. C'était avant d'être traduit au tribunal qu'il fallait en déclarer l'infamie. Il ne restait à Danton qu'à se montrer aussi impitoyable à sa propre mort qu'il l'avait été à celle de ses victimes, qu'à dresser son front plus haut que le coutelas suspendu. C'est ce qu'il fit. du théâtre de la terreur, où ses pieds se collaient dans le sang épaissi de la veille, après avoir promené un regard de mépris et de domination sur la foule, il dit au bourreau « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Le chef de Danton demeura aux mains de l'exécuteur, tandis que l'ombre acéphale alla se mêler aux ombres décapitées de ses victimes. C'était encore de l'égalité. Le diacre et le sous-diacre de Danton, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine, périrent de la même manière que leurs prêtres. À l'époque où l'on faisait des pensions à la guillotine, où l'on portait alternativement à la boutonnière de sa carmagnole, en guise de fleur, une petite guillotine en or ou un petit morceau de cœur de guillotiné, à l'époque où l'on vociférait « Vive l'enfer !», où l'on célébrait les joyeuses orgies du sang, de l'acier et de la rage, où l'on trinquait au néant, où l'on dansait tout nu le chahut des trépassés pour n'avoir pas la peine de se déshabiller en allant les rejoindre. À cette époque, il fallait en fin de compte arriver au dernier banquet, à la dernière facétie de la douleur. Desmoulins fut convié au tribunal de Fouquier-Tinville. « Quel âge as-tu ? » lui demanda le président. « L'âge du sans-culotte Jésus, » répondit Camille bouffonnant. Une obsession vengeresse forçait ces égorgeurs de chrétiens à confesser incessamment le nom du Christ. Il serait injuste d'oublier que Camille Desmoulins osa braver Robespierre et racheter par son courage ses égarements. Il donna le signal de la réaction contre la terreur. Une jeune et charmante femme, pleine d'énergie, en le rendant capable d'amour, le rendit capable de vertu et de sacrifice. L'indignation inspira l'éloquence de l'intrépide et grivoise ironie du tribun. Il assaillit d'un grand air les échafauds qu'il avait aidé à élever. Conformant sa conduite à ses paroles, il ne consentit point à son supplice. Il se colleta avec l'exécuteur dans le tombereau et n'arriva au bord du dernier gouffre qu'à moitié déchiré. Fabre d'Églantine, auteur d'une pièce qui restera, montra tout au rebours de Desmoulins une insigne faiblesse. Jean Roseau, bourreau de Paris sous la Ligue, pendu pour avoir prêté son ministère aux assassins du président Brisson, ne se pouvait résoudre à la corde. Il paraît qu'on n'apprend pas à mourir en tuant les autres. Les débats au Cordelier me constatèrent le fait d'une société dans le moment le plus rapide de sa transformation. J'avais vu l'Assemblée constituante commencer le meurtre de la royauté en 1789 et 1790. Je trouvais le cadavre encore tout chaud de la vieille monarchie, livrée en 1792 au boyaudier législateur. Ils l'éventraient et le disséquaient dans les salles basses de leur club, comme les hallebardiers dépecèrent et brûlèrent le corps du Balafré dans les souterrains du château de Blois. De tous les hommes que je rappelle, Danton, Marat, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine, Robespierre, pas un ne vit. Je les rencontrai un moment, sur mon passage, entre une société naissante en Amérique et une société mourante, en Europe, entre les forêts du Nouveau Monde et les solitudes de l'exil. Je n'avais pas compté quelques mois sur le sol étranger que ces amants de la mort s'étaient déjà épuisés avec elle. À la distance où je suis maintenant de leur apparition, il me semble que, descendu aux enfers dans ma jeunesse, j'ai un souvenir confus des larves que j'entrevis errantes au bord du Cocyte. Elles complètent les songes variés de ma vie et viennent se faire inscrire sur mes tablettes d'outre-tombe.
Chapitre 5. Londres, d'avril à septembre 1822. Opinion de Monsieur de Malesherbes sur l'émigration. Ce me fut une grande satisfaction de retrouver Monsieur de Malesherbes et de lui parler de mes anciens projets. Je rapportai les plans d'un second voyage qui devait durer 9 ans. Je n'avais à faire avant qu'un autre petit voyage en Allemagne. Je courais à l'armée des princes, je revenais en courant pour fendre la Révolution, le tout étant terminé en 2 ou 3 mois. Je hissai ma voile et retournai au Nouveau Monde avec une révolution de moins et un mariage de plus. Et cependant, mon zèle surpassait ma foi. Je sentais que l'émigration était une sottise et une folie. « Pelaudé à toute main, dit Montaigne, au gibelin, geste-toi guelf, au guelf, gibelin. » Mon peu de goût pour la monarchie absolue ne me laissait aucune illusion sur le parti que je prenais.
je nourrissais des scrupules, et bien que résolu de me sacrifier à l'honneur, je voulus avoir sur l'émigration l'opinion de M. de Malesherbes. Je le trouvais très animé. Les crimes, continués sous ses yeux, avaient fait disparaître la tolérance politique de l'ami de Rousseau. Entre la cause des victimes et celle des bourreaux, il n'hésitait pas. Il croyait que tout valait mieux que l'ordre de choses alors existant. Il pensait, dans mon cas particulier, qu'un homme portant l'épée ne se pouvait dispenser de rejoindre les frères d'un roi opprimé et livré à ses ennemis. Il approuvait mon retour d'Amérique et pressait mon frère de partir avec moi. Je lui fis les objections ordinaires sur l'alliance des étrangers, sur les intérêts de la patrie, etc., etc. Il y répondit. Des raisonnements généraux, passant au détail, il me cita des exemples embarrassants. Il me présenta les guelfes et les gibelins, s'appuyant des troupes de l'empereur ou du pape. En Angleterre, les barons se soulevant contre Jean sans terre. Enfin, de nos jours, il citait la République des États-Unis, implorant le secours de la France. Ainsi, continuait M. de Malesherbes, les hommes les plus dévoués à la liberté et à la philosophie, les républicains et les protestants, ne se sont jamais crus coupables en empruntant une force qui pût donner la victoire à leur opinion. Sans notre or, nos vaisseaux et nos soldats, le Nouveau Monde serait-il aujourd'hui émancipé? Moi, Malesherbes, moi qui vous parle, n'ai-je pas reçu en 1776 Franklin, lequel venait renouer les négociations de Silas Deane, et pourtant Franklin était-il un traître? La liberté américaine était-elle moins honorable parce qu'elle a été assistée par Lafayette et conquise par des grenadiers français? Tout gouvernement qui, au lieu d'offrir des garanties aux lois fondamentales de la société, transgresse lui-même les lois de l'équité, les règles de la justice, n'existe plus et rend l'homme à l'état de nature. Il est licite alors de se défendre comme on peut, de recourir aux moyens qui semblent les plus propres à renverser la tyrannie, à rétablir les droits de chacun et de tous. Les principes du droit naturel mis en avant par les plus grands publicistes, développé par un homme tel que M. de Malesherbes et appuyé de nombreux exemples historiques, me frappèrent sans me convaincre. Je ne cédais réellement qu'au mouvement de mon âge, au point d'honneur. J'ajouterai à ces exemples de M. de Malesherbes des exemples récents. Pendant la guerre d'Espagne, en 1823, le parti républicain français est allé servir sous le drapeau des Cortés et ne s'est pas fait scrupule de porter les armes contre sa patrie. Les Polonais et les Italiens constitutionnels ont sollicité en 1830 et 1831 les secours de la France, et les Portugais de la Charte ont envahi leur patrie avec l'argent et les soldats de l'étranger. Nous avons deux poids et deux mesures. Nous approuvons pour une idée un système, un intérêt, un homme, ce que nous blâmons pour une autre idée, un autre système, un autre intérêt, un autre homme. Chapitre 6. Londres d'avril à septembre 1822. Je joue et je perds. Aventure du fiacre. Madame Roland. Barère à l'Ermitage. Seconde fédération du 14 juillet. Préparatif d'émigration. Ces conversations entre moi et l'illustre défenseur du roi avaient lieu chez ma belle-sœur. Elle venait d'accoucher d'un second fils dont M. de Malesherbes fut parrain et auquel il donna son nom, Christian. J'assistais au baptême de cet enfant qui ne devait voir son père et sa mère qu'à l'âge où la vie n'a point de souvenir et apparaît de loin comme un songe immémorable. Les préparatifs de mon départ traînèrent. On avait cru me faire faire un riche mariage. Il se trouva que la fortune de ma femme était en rente sur le clergé. La nation se chargea de les payer à sa façon. Madame de Chateaubriand avait de plus, du consentement de ses tuteurs, prêté l'inscription d'une forte partie de ses rentes à sa sœur, la comtesse du Plessis-Parscot, émigrée. L'argent manquait donc toujours, il en fallut emprunter. Un notaire nous procura 10 000 francs. Je les rapportai en assignat, chez moi, cul-de-sac Férou, lorsque je rencontrai, rue de Richelieu, un de mes anciens camarades au régiment de Navarre, le comte Achard. Il était grand joueur. Il me proposa d'aller au salon de M, où nous pourrions causer. Le diable me pousse, je monte, je joue, je perds tout, sauf 1 500 francs avec lesquels, plein de remords et de confusion, je grimpe dans la première voiture venue. Je n'avais jamais joué. le jeu produisit sur moi une espèce d'enivrement douloureux. Si cette passion m'eût atteint, elle m'aurait renversé la cervelle. L'esprit à moitié égaré, je quitte la voiture à Saint-Sulpice et j'y oublie mon portefeuille renfermant les cornures de mon trésor. Je cours chez moi et je raconte que j'ai laissé les 10 000 francs dans un fiacre. Je sors, je descends la rue Dauphine, je traverse le Pont-Neuf, non sans avoir envie de me jeter à l'eau. Je vais sur la place du Palais-Royal où j'avais pris le malencontreux cabas. J'interroge les Savoyards qui donnent à boire aux rosses. Je dépeins mon équipage, on m'indique au hasard un numéro. Le commissaire de police du quartier m'apprend que ce numéro appartient à un loueur de carrosses demeurant au haut du faubourg Saint-Denis. Je me rends à la maison de cet homme, je demeure toute la nuit dans l'écurie, attendant le retour des fiacres. Il en arrive successivement un grand nombre qui ne sont pas le mien. Enfin, à 2 heures du matin, je vois entrer mon char. À peine eus-je le temps de reconnaître mes 2 coursiers blancs que les pauvres bêtes éreintées se laissèrent choir sur la paille, raides, le ventre ballonné, les jambes tendues comme si elles étaient mortes. Le cocher se souvint de m'avoir mené. Après moi, il avait chargé un citoyen qui s'était fait descendre aux Jacobins. Après le citoyen, une dame qui l'avait conduite rue de Cléry, numéro 13. Après cette dame, un monsieur qui l'avait déposé au Récollet, rue Saint-Martin. Je promets pour boire au cocher, et me voilà, sitôt que le jour fut venu, procédant à la découverte de mes 1 500 francs comme à la recherche du passage du Nord-Ouest. Il me paraissait clair que le citoyen des Jacobins les avait confisqués du droit de sa souveraineté. La demoiselle de la rue de Cléry affirma n'avoir rien vu dans le fiacre. J'arrive à la 3e station sans aucune espérance. Le cocher donne tant bien que mal le signalement du monsieur qui l'a voituré. Le portier s'écrie « C'est le père Tell !» Il me conduisit à travers les corridors et les appartements abandonnés chez un récollet resté seul pour inventorier les meubles de son couvent. Ce religieux, en redingote poudreuse, sur un amas de ruines, écoute le récit que je lui fais. « Êtes-vous, me dit-il, le chevalier de Chateaubriand ?»« Oui, répondis-je. « Voilà votre portefeuille, répliqua-t-il. Je vous l'aurais porté après mon travail. J'y avais trouvé votre adresse. » Ce fut ce moine, chassé et dépouillé, occupé à compter consciencieusement pour ses proscripteurs les reliques de son cloître, qui me rendit les 1 500 francs avec lesquels j'allais m'acheminer vers l'exil. Faute de cette petite somme, je n'aurais pas émigré. Que serais-je devenu? Toute ma vie était changée. Si je faisais aujourd'hui un pas pour retrouver 1 000 000, je veux être pendu. Ceci se passait le 16 juin 1792. Fidèle à mes instincts, j'étais revenu d'Amérique pour offrir mon épée à Louis XVI, non pour m'associer à des intrigues de parti. Le licenciement de la nouvelle garde du roi, dans laquelle se trouvait Murat, les ministères successifs de Roland, de Dumouriez, de Duport du Tertre, les petites conspirations de cour, ou les grands soulèvements populaires, ne m'inspiraient qu'ennui et mépris. J'entendais beaucoup parler de Madame Roland, que je ne vis point. Ses mémoires prouvent qu'elle possédait une force d'esprit extraordinaire. On la disait fort agréable. Reste à savoir si elle l'était assez pour faire supporter à ce point le cynisme des vertus hors nature. Certes, la femme qui, au pied de la guillotine, demandait une plume et de l'encre afin d'écrire les derniers moments de son voyage, de consigner les découvertes qu'elle avait faites dans son trajet de la conciergerie à la place de la Révolution, une telle femme montre une préoccupation d'avenir, un dédain de la vie dont il y a peu d'exemples. Madame Roland avait du caractère plutôt que du génie. Le premier peut donner le second ne peut donner le premier. Le 19 juin, j'étais allé à la vallée de Montmorency visiter l'ermitage de Jean-Jacques Rousseau. Non que je me plusse au souvenir de Madame d'Épinay et de cette société factice et dépravée. Mais je voulais dire adieu à la solitude d'un homme antipathique par ses mœurs, à mes mœurs, bien que doué d'un talent dont les accents remuaient ma jeunesse. Le lendemain, 20 juin, j'étais encore à l'ermitage. J'y rencontrai 2 hommes qui se promenaient comme moi dans ce lieu désert pendant le jour fatal de la monarchie, indifférents qu'ils étaient ou qu'ils seraient, pensais-je, aux affaires du monde. L'un était M. Marais de l'Empire, l'autre M. Barrère, de la République. Le gentil Barrère était venu, loin du bruit, dans sa philosophie sentimentale, compter des fleurettes révolutionnaires à l'ombre de Julie. Le troubadour de la guillotine, sur le rapport duquel la Convention décréta que la terreur était à l'ordre du jour, échappa à cette terreur, en se cachant dans le panier aux têtes. Du fond du baquet de sang, sous l'échafaud, on l'entendait seulement croasser « la mort ». Barrère était de l'espèce de ces tigres qu'Oppien fait naître du souffle léger du vent. Zefouri, wel fawoni aoura. Ginguené, Champfort, mes anciens amis, les gens de lettres, étaient charmés de la journée du 20 juin. La harpe, continuant ses leçons au lycée, criait d'une voix de stentor « Insensé, vous répondiez à toutes les représentations du peuple. Les baïonnettes, eh bien, les voilà, les baïonnettes !» Quoique mon voyage en Amérique m'eût rendu personnage moins insignifiant, je ne me pouvais élever à une si grande hauteur de principe et d'éloquence. Fontane courait des dangers par ses anciennes liaisons avec la société monarchique. Mon frère faisait partie d'un club d'enragés. Les Prussiens marchaient en vertu d'une convention des cabinets de Vienne et de Berlin. Déjà une affaire assez chaude avait eu lieu entre les Français et les Autrichiens, du côté de Mons. Il était plus que temps de prendre une détermination. Mon frère et moi, nous nous procurâmes de faux passeports pour Lille. Nous étions deux marchands de vin, gardes nationaux de Paris, dont nous portions l'uniforme, nous proposant de soumissionner les fournitures pour l'armée. Le valet de chambre de mon frère, Louis Poulain, appelé Saint-Louis, voyageait sous son propre nom. Bien que de Lamballe, en Basse-Bretagne, il allait voir ses parents, en Flandre. Le jour de notre émigration fut fixé au 15 de juillet, lendemain de la seconde fédération. Nous passâmes le 14 dans les jardins de Tivoli avec la famille de Rosambeau, mes sœurs et ma femme. Tivoli appartenait à M. Boutin, dont la fille avait épousé M. de Malesherbes. Vers la fin de la journée, nous vîmes errer, à la débandade, bon nombre de fédérés, sur les chapeaux desquels était écrit à la craie « Pétion ou la mort ». Tivoli, point de départ de mon exil, devait devenir un rendez-vous de jeux et de fêtes. Nos parents se séparèrent de nous sans tristesse, ils étaient persuadés que nous faisions un voyage d'agrément. Mes 1500 francs retrouvés semblaient un trésor suffisant pour me ramener triomphant à Paris. Chapitre 7. Londres d'avril à septembre 1822. J'émigre avec mon frère. Aventure de Saint-Louis. Nous passons la frontière. Le 15 juillet, à 6 heures du matin, nous montâmes en diligence. Nous avions arrêté nos places dans le cabriolet auprès du conducteur. Le valet de chambre, que nous étions censés ne pas connaître, s'enfourna dans le carrosse avec les autres voyageurs. Saint-Louis était somnambule. Il allait la nuit chercher son maître dans Paris, les yeux ouverts, mais parfaitement endormi. Il déshabillait mon frère, le mettait au lit, toujours dormant, répondant à tout ce qu'on lui disait pendant ses attaques. « Je sais, je sais », ne s'éveillant que quand on lui jetait de l'eau froide au visage. Homme d'une 40aine d'années, haut de près de 6 pieds et aussi laid qu'il était grand. Ce pauvre garçon, très respectueux, n'avait jamais servi d'autre maître que mon frère. Il fut tout troublé lorsqu'au souper, il lui fallut s'asseoir à la table avec nous. Les voyageurs, fort patriotes, parlant d'accrocher les aristocrates à la lanterne, augmentaient sa frayeur. L'idée qu'au bout de tout cela, il serait obligé de passer à travers l'armée autrichienne pour s'aller battre à l'armée des princes, acheva de déranger son cerveau. Il but beaucoup et remonta dans la diligence, nous rentrâmes dans le coupé. Au milieu de la nuit, nous entendons les voyageurs crier, la tête à la portière, « Arrêtez, postillon, arrêtez !» On arrête, la portière de la diligence s'ouvre, et aussitôt des voix de femmes et d'hommes, « Descendez, citoyens, descendez, on n'y tient pas, descendez, cochon, c'est un brigand, descendez, descendez !» Nous descendons aussi, nous voyons Saint-Louis bousculé, jeté en bas du coche, se relevant, promenant ses yeux ouverts et endormis autour de lui, se mettant à fuir à toutes jambes, sans chapeau, du côté de Paris. Nous ne le pouvions réclamer, car nous nous serions trahis. Il le fallut abandonner à sa destinée. Pris et appréhendé au premier village, il déclara qu'il était le domestique de M. le comte de Chateaubriand et qu'il demeurait à Paris, rue de Bondy. La maréchaussée le conduisit de brigade en brigade chez le président de Rosambeau. Les dépositions de ce malheureux homme servirent à prouver notre émigration et à envoyer mon frère et ma belle-sœur à l'échafaud. Le lendemain, au déjeuner de la diligence, il fallut écouter 20 fois toute l'histoire. Cet homme avait l'imagination troublée, il rêvait tout haut, il disait des choses étranges. C'était sans doute un conspirateur, un assassin qui fuyait la justice. Les citoyennes bien élevées rougissaient en agitant de grands éventails de papier vert à la Constitution. Nous reconnûmes aisément dans ces récits les effets du somnambulisme, de la peur et du vin. Arrivés à Lille, nous cherchâmes la personne qui nous devait mener au-delà de la frontière. L'émigration avait ses agents de salut qui devinrent par le résultat des agents de perdition. Le parti monarchique était encore puissant, la question non décidée. Les faibles et les poltrons servaient en attendant l'événement. Nous sortîmes de l'île avant la fermeture des portes. Nous nous arrêtâmes dans une maison écartée et nous ne nous mîmes en route qu'à 10 heures du soir lorsque la nuit fut tout à fait close. Nous ne portions rien avec nous. Nous avions une petite canne à la main. Il n'y avait pas plus d'un an que je suivais ainsi mon Hollandais dans les forêts américaines. Nous traversâmes des blés parmi lesquels serpentaient des sentiers, à peine tracés. Les patrouilles françaises et autrichiennes battaient la campagne. Nous pouvions tomber dans les unes et dans les autres ou nous trouver sous le pistolet d'une vedette. Nous entrevîmes de loin des cavaliers isolés, immobiles et l'arme au poing. Nous ouïmes des pas de chevaux dans des chemins creux. En mettant l'oreille à terre, nous entendîmes le bruit régulier d'une marche d'infanterie. Après 3 heures d'une route, tantôt faite en courant, tantôt lentement sur la pointe du pied, nous arrivâmes au carrefour d'un bois où quelques rossignols chantaient, en tardivité. Une compagnie de hulans, qui se tenait derrière une haie, fondit sur nous le sabre haut. Nous criâmes « Officiers qui vont rejoindre les princes !» Nous demandâmes à être conduits à Tournai, déclarant être en mesure de nous faire reconnaître. Le commandant du poste nous plaça entre ses cavaliers et nous emmena. Quand le jour fut venu, les hulans aperçurent nos uniformes de gardes nationaux sous nos redingotes et insultèrent les couleurs que la France allait faire porter à l'Europe vassale. Dans le Tournaisis, royaume primitif des Francs, Clovis résida pendant les premières années de son règne. Il partit de Tournai avec ses compagnons, appelé qu'il était à la conquête des Gaules. Les armes attirèrent à elles tous les droits, dit Tacite. Dans cette ville, d'où sortit en 486 le premier roi de la première race pour fonder sa longue et puissante monarchie, j'ai passé en 1792 pour aller rejoindre les princes de la troisième race sur le sol étranger, et j'y repassais en 1814, lorsque le dernier roi des Français abandonnait le royaume du premier roi des Francs, Omnia Migrante. Arrivé à Tournai, je laissai mon frère se débattre avec les autorités et sous la garde d'un soldat je visitai la cathédrale. Jadis, Odon d'Orléans, scolastique de cette cathédrale, assis pendant la nuit devant le portail de l'église, enseignait à ses disciples le cours des astres, leur montrant du doigt la voie lactée et les étoiles. J'aurais mieux aimé trouver à Tournai ce naïf astronome du XIe siècle que des pandours. Je me plais à ces temps où les chroniques m'apprennent, sous l'an 1049, qu'en Normandie, un homme avait été métamorphosé en âne. C'est ce qui pensa m'arriver à moi-même, comme on l'a vu chez les demoiselles Coupard, mes maîtresses de lecture. Hildebert, en 1114, a remarqué une fille des oreilles de laquelle sortaient des épis de blé. C'était peut-être Cérès. La Meuse, que j'allais bientôt traverser, fut suspendue en l'air l'année 1118, témoin Guillaume de Nangis et Albéric. Rigord assure que l'an 1194, entre Compiègne et Clermont en Beauvoisis, il tomba une grêle entremêlée de corbeaux qui portaient des charbons et mettaient le feu. Si la tempête, comme nous l'assure Gervais de Tilbury, ne pouvait éteindre une chandelle sur la fenêtre du prieuré de Saint-Michel de Camissa, par lui, nous savons aussi qu'il y avait dans le diocèse d'Uzès une belle et pure fontaine, laquelle changeait de place lorsqu'on y jetait quelque chose de sale. Les consciences d'aujourd'hui ne se dérangent pas pour si peu. Lecteur, je ne perds pas de temps. Je bavarde avec toi pour te faire prendre patience, en attendant mon frère qui négocie. Le voici, il revient après s'être expliqué à la satisfaction du commandant autrichien. Il nous est permis de nous rendre à Bruxelles, exil acheté par trop de soins.